Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Évidemment, pas besoin de préciser que notre ami Fabien est avec nous encore ce matin. Bonjour Fabien.
Bonjour, mon cher Paul.
Et je suis particulièrement touché parce que c'est évidemment le vendredi d'habitude qu'on a notre rendez-vous, mais comme tu as décidé d'aller passer un mois au Centre Vidéotron à Québec avec ton spectacle, résidence avec Metallica.
Ça serait bien, mais non, c'est ça, c'est plus du côté de Lévis. Ah. Je sais qu'il y a eu beaucoup de monde probablement qui aurait eu envie de quitter la ville pour aller à Lévis.
Quel lien vas-tu prendre? Est-ce que c'est
Je vais rester au sud, mais je vais sûrement en profiter pour aller faire un tour à Saint-Jean-Chrysostome, une destination vraiment très, très, très prisée.
Hein? Et je sais que ce matin, et c'est important, je pense que les gens devraient cesser leurs activités parce que tu as un message important à la nation.
Oui, ben, tu sais, je pouvais pas être là demain, Paul. Puis, tu sais, quand tu as un sujet d'importance capitale, puis c'est ma dernière chance, là, avant ton congé, de prendre la parole puis de faire œuvre utile pour mes concitoyens. Donc, je me suis dit, Fabien, vas-y. Je sais, bon, pour plusieurs, les vacances approchent et je voulais offrir des conseils, hein, des mises en garde et je vais quand même débuter avec un rappel de bienséance parce que vous savez, parfois, dans les hôtels, il y a des piscines. Et là, ben, il y a des gens, ils veulent se baigner, mais ça leur tente pas de traîner un sac entre leur chambre puis la piscine ou ça leur tente pas d'utiliser un casier. Donc, ils mettent leur costume de bain dans leur chambre. Et là, pour la série de corridors, tu sais, entre la chambre et la piscine, ils mettent pas un petit quelque chose de plus sur leur costume. Il y a pas un t-shirt, un pareo.
Souvent la robe de chambre qu'il y a dans le garde-robe.
C'est
là.
Ça, une chemise légère. Tu sais, c'est le buffet de peau. moi là, dernièrement, c'est ça. Je suis au troisième étage et là, je veux aller au rez-de-chaussée. Là, la porte de l'ascenseur ouvre et c'est deux couples qui vont à la piscine et ils sont déjà en maillot. Mm-hmm. Donc deux messieurs nus mamelons, le beau poil bien frisé, là qui fait quasiment un beigne chocolaté sur le pourtour du nombril. Et il y a, vous le voyez, là, il est là. Et il y a deux dames en maillot aussi, pas de serviette autour de la taille. Tu sais, les quatre sont juste en maillot. Tu sais, t'es à l'hôtel, t'sais, t'as croisé du monde avec le manteau sur le dos puis des gens en complet qui sont dans un congrès. Là, tu tombes face à face. Il y a des tissus serrés, des craques. Il reste plus grand chose à imaginer. T'sais, t'as quasiment peur que le monsieur te demande sur quel étage que tu vas puis qu'il pèse sur le piton rez-de-chaussée avec sa mamelle dure. J'aime pas. Ça me met mal à l'aise. Bon. Ces moments-là. Et là, ben, j'ai juste fait, ben, je vais prendre le prochain. Puis là, ils te disent, non, viens, on va te faire une place. Et il n'y a pas de règlement, Paul, qui dit qu'on n'a pas le droit d'être en costume de bain dans un ascenseur, mais c'est que l'exercice de l'ascenseur, ça vient avec une certaine proximité. Moi, là, faire du pot à pot avec mon bébé à sa naissance, dans ses premiers jours de vie, ça va. Mais le pot à pot avec une bédaine d'un monsieur que je connais pas, c'est plein de gentillesse, hein, de faire une place, mais c'est psychologique. Des bédaines à l'air, à la piscine, c'est pas pareil comme dans un ascenseur. Et ça, c'est sans compter les mal essuyés qui reviennent de la piscine de l'hôtel. Ils dégoûtent sur l'ardoise de l'ascenseur, puis tu manques de glisser d'une flaque, puis aller te friper, puis aller dans le mur. Il faut pas faire ça. Et je le dis à toi, Paul, ce matin, mais je sais que toi, t'as le mamelon timide. Tu sais, je veux dire, non. Paul, là, toi, tu flashes pas ça à gauche puis à droite. Les gens aiment ta droiture, tes opinions, mais ils ont pas besoin de savoir l'épaisseur de la touffe de poêle dans ton bas de dos. Ça, non, personne n'a besoin Non, mais c'est vrai. Même chose pour toi, Alain, là. Je le sais, là, que cet été, tu vas te baigner à la maison, à Varennes, et que si t'as de la visite impromptue, puis il faut que t'ailles à l'épicerie, tu vas te vêtir convenablement le sternum, et les caméras de l'épicerie ne pourront pas témoigner de ton petit crête qui se recroqueville sur lui-même dans la rangée du congelé. Non, non. Comme on dit, là. Non, non, non. Dans les racks à pain, t'auras pas la moche et de gomme qui virevolte dans le filet du costume de bain. C'est pas mon Alain, ça. C'est pas mon Alain. Il sait se tenir. Je sais que tu vas mettre...
Tu vas être fier de moi.
Tu vas mettre un Bermuda convenable. Non, mais tu sais, ça fait des années qu'on te voit le haut du corps à TV. Quand même que t'aurais une amanchure hors norme, c'est pas de nos affaires. Et Yvon Deschamps disait, on veut pas le savoir, on veut le voir. Ben, dans ton cas, on veut ni le savoir, ni le voir. Et aussi, donc, pour les vacances qui s'en viennent, là, faut se préparer tout le monde à un phénomène qui est quand même assez répandu. Ça arrive dans les restaurants de toutes les régions du Québec, mais ça arrive aussi à Montréal. Je parle bien sûr des serveurs ou des serveuses qui prennent les commandes au passé. OK? Ils te disent pas, avez-vous fait votre choix ou voulez-vous un dessert? Ils disent, est-ce qu'on savait ce qu'on allait prendre? Est-ce qu'on voulait un dessert? Là, je suis venu déjeuner aujourd'hui, pas la semaine passée. Mais bon. Sinon, ben hier, il y a notre ami Fred, bien sûr, qui nous a parlé des prénoms. Et quand même, c'est le fun de voir ça. Mais juste dire, il y a eu un seul Alain en 2022. 79 Paul.
Grâce à toi.
Oui, oui, oui. 16 Cole. 6 Fabien. 3 Rosaire. Donc, on va pouvoir commencer à dire hey Rosaire, quelle heure qui est. Et,
minuit dans 20.
Oui, oui. Et il y a une vingtaine de Edgar. Ce qui prouve que quand même, la popularité de notre ami Edgar Fruitier ne diminue pas si vite que ça. Hey! On va finir ça comme ça, mon beau Paul.
Et aucun pourtour, hein?
Aucun pourtour. Non, non, juste le pourtour de nombril.
Oui, mais prénom. Tu sais, pourtour Cloutier, ouais, ça aurait été très joli.
Pourtour Cloutier. Pourtour Crête? Oui. Non, la crête du... Ou peut-être un nom composé. Philippe Audrey pourtour. C'est Jacques.
Merci, cher Fabien. Merci beaucoup.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
On se prépare mentalement, tout le moins, et aussi physiquement pour la fête nationale, parce que cette année, c'est vrai que ça reprend un peu de tonus par rapport à la période de pandémie. Puis même l'an passé, c'était un peu mieux, mais c'était quand même limité. J'accueille ce matin la porte-parole nationale et officielle, c'est quand même pas rien, Léane Labrèche-Dor. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Donc, comment vous êtes devenue la porte-parole officielle? Vous avez levé la main, ils ont pensé à vous. C'est arrivé comment?
C'est un appel que j'ai reçu qui, au départ, je pensais que c'était une remouture de surprise. Là, je comprenais pas du tout qu'est-ce qui arrivait. Je savais pas non plus qu'est-ce que ça voulait dire, être porte-parole. Au début, je me disais, bon, d'accord, ils veulent que je fasse des entrevues un petit peu. Et là, quand j'ai compris que c'était tout le mandat par rapport à ce que c'est d'être porte-parole, mais aussi faire le discours patriotique sur les plaines, tout ça, moi, je suis tombée en bas de ma chaise. J'ai crié oui au téléphone, puis j'ai croisé les doigts après ça pour qu'ils ne regrettent pas leur choix.
Pourquoi? Parce que vous trouvez ça trop gros?
Ben, c'est pas que c'est trop gros, mais c'est qu'on a comme une vision aussi de ce que c'est un porte-parole ou même les gens qui ont livré le discours patriotique. Moi, j'avais des visions de monuments, tu sais, qui avaient marqué déjà beaucoup la culture, qui avaient marqué le paysage québécois, qui avaient l'histoire même. Puis, moi, je me trouvais très jeune, très... En même temps, je pense qu'il y a aussi là une espèce de virage vers l'avenir, puis d'essayer de montrer justement l'ouverture. Ça se voit aussi dans les choix des artistes musicaux qui participent à pas mal toutes les fêtes là, dans les deux jours du 23, du 24. Il y a beaucoup d'artistes de la relève. Je pense qu'il y a un désir de donner la parole aux jeunes. Je pense qu'on comprend aussi qu'on est dans un moment assez charnière, à plein d'égards, puis qu'on a voulu donner ce souffle-là à des personnes plus jeunes, mais j'ai été surprise que ce choix-là s'arrête sur moi.
Qu'est-ce que vous allez dire dans votre discours?
Ah, mon Dieu, je vais commencer par bonsoir. J'ai envie de dire plein d'affaires, j'ai envie de... Après ça, on va voir, tout ça risque de bouger jusqu'au 23 au soir, mais j'ai envie de dire ma fierté, de dire mon amour, de dire mes souhaits aussi, qui sont parfois plutôt franc et pas juste dans l'absolu de ce serait le fun qu'on s'aime. Il y a quand même des souhaits assez précis. Moi, j'ai eu un enfant il y a 2 ans. J'ai des espoirs, puis j'ai des souhaits quand même qui vont demander à ce qu'on se resserre les coudes, tout le monde. Il y a quand même ça aussi qui est à dire, mais tout ça dans le plus grand esprit d'amour puis de fierté puis de peuple que puis de ce que moi cette nation là me fait ressentir, tu sais.
Qu'est-ce que vous avez comme souvenir de vos fêtes nationales?
Ah mon Dieu, on dirait que pour moi pas mal toutes les fêtes nationales, même si à travers les époques puis à travers le temps il y a eu différentes type d'appartenance à cette fête-là. On s'entend que quand on a 5-6 ans... C'est la fête de quartier, c'est la fin de l'école, c'est le début des vacances. Ça veut pas dire la même chose que quand on a comme 20 ans. Mais tous mes souvenirs, tous mes plus beaux souvenirs sont dehors, sont en groupe. C'est pour moi une des seules soirées où il peut se mettre à pleuvoir là, des cordes, puis qu'on fait juste lever les bras au ciel, puis on fait « Hey, on s'en fout, on est là, puis on rentre en autobus, dans l'air clim de l'autobus, puis on... on a froid, là, oui. Mais on se dit que ça a valu la peine parce qu'on a écouté des groupes qu'on aimait. On a senti l'espèce d'énergie super galvanisante qu'il y a dans les parcs, dans les fêtes de ruelles. Ouais. Moi, c'est ça que j'ai comme souvenir. C'est des souvenirs de parcs, d'extérieur, de pluie.
De rassemblement.
De rassemblement, d'amis aussi, tu sais, ouais.
Est-ce que, quand vous préparez, je reviens au discours, vous vous dites, c'est un discours majeur, veut pas, ça va être vu partout. La crainte de je sais pas, créer une polémique, ça prend pas grand chose aujourd'hui pour en partir une, puis elle est amplifiée rapidement sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Est-ce que vous pensez à ça?
Ben, oui, puis non. Okay. Dans le sens où, c'est la pire chose qui peut arriver, que ce soit pas bon, que certaines personnes n'aient pas aimé ça. Genre, la Terre continue à tourner, puis va falloir quand même éventuellement qu'on trouve une façon de ralentir le réchauffement climatique. Fait que le point d'orgue de mon discours dans l'histoire de l'humanité est tout à fait minime. Il n'y a pas vraiment de réelle importance par la suite. Je vais essayer d'être le plus honnête possible, le plus sincère possible. Puis après ça, si c'est fait dans l'honnêteté puis la sincérité, la partie qui m'appartient pas, je peux pas la contrôler. Je pense sincèrement que tu sais, on le dit souvent là, on peut pas plaire à tout le monde, tout ça, mais c'est vrai. Puis il y a des gens qui vont, puis en même temps, sur les plaines ce soir-là, personne va réellement s'arrêter à quoi que ce soit. Il y a tellement une énergie. Je sais pas si vous êtes déjà allé sur les plaines fêter.
Je suis allé sur la montagne à l'époque. Alors ça donne.
C'est à peu près le même sentiment.
Oui, oui, oui. Puis le parc Maisonneuve aussi.
Ouais, il y a plus un. On est plus dans l'amour que dans la brique pis le fanal, tu sais, ce soir-là. Après ça, après coup, peut-être, là, évidemment, qu'il y aura des chroniques puis des papiers.
Mais tu sais, je regarde Émile Bilodeau, là, qui a pris position contre la loi 21 sur la laïcité, puis là, c'est comme deux tendances. Mouvement laïque dit pas d'affaire là, puis donc, ils disent au contraire, c'est la liberté d'expression, puis c'est d'accueillir tout le monde, peu importe le point de vue. En même temps, c'est pas une soirée, comment je dirais, militante, là, c'est une soirée où on fête, puis on s'amuse, puis mais ce qui n'empêche pas qu'on a le droit de souligner quand même des moments importants. Mais ça demeure toujours politique, veut pas, là.
Ben, de par la nature même d'être dans la position québécoise, dans ce que c'est le Canada, dans ce que c'est plein d'affaires. Oui, c'est sûr qu'il y a comme un aspect qui peut être politique, mais le mouvement national des Québécoises et des Québécois arrête pas de le répéter. Eux autres, ils font pas un événement politique. Ils font pas non plus ils passent pas là un regard légal nécessairement sur le discours que je suis en train d'écrire. Tu sais, il y a pas personne qui va faire cette espèce de dépouillement là comme on ferait par exemple dans un spectacle à la télé comme un gala, moi j'en ai animé des galas des fois, puis là, évidemment que bon, le diffuseur, tu sais, c'est pas la même affaire. Je pense après ça qu'il faut vraiment prendre conscience aussi que tu sais, une nation, c'est quoi? C'est un regroupement de plein d'individus qui décident envers et contre tous d'essayer de se tenir la main puis de faire un bout de chemin ensemble dans la vie, tu sais, avec des valeurs qui sont la plupart du temps communes. Des fois, ils sont un peu en contradiction. Des fois, ils sont, je veux dire, c'est pas... Je pense que c'est mouvant, puis je pense qu'il faut aussi représenter tout le monde. Il faut aussi avoir une vision large. Je pense que les artistes, on est aussi je pense qu'on a un devoir d'être sincère, d'être honnête, puis de s'inscrire après ça différemment à plusieurs endroits, à plusieurs espaces, dans différents cœurs, dans différentes têtes, avec différents types d'œuvres, que ce soit des chansons, si on parle d'Émile Bilodeau, mais après ça, on peut aller voir des auteurs, des autrices, des scénaristes, des gens qui font des œuvres, des toiles, des peintures. Je pense qu'il faut avoir une vision globale de tout ça. Puis je pense aussi qu'il faut, à un moment donné, essayer de plus trouver ce qui nous ressemble, ce qui nous rassemble, ce qui nous unit, que ce qui nous divise tout le temps.
Mais ce que, moi, je me souviens d'avoir vu la fête nationale avec le thermomètre de la souveraineté, c'est-à-dire que la fête de 75 qui précédait la victoire du Parti québécois, la foulée vers le référendum, la déprime après ça qui a suivi, l'espoir qui revient. Puis là, on se dit, OK, c'est-tu encore un sujet d'actualité? Est-ce que les changements climatiques ont pris la place des revendications collectives? On ne sait pas trop, mais il y a quand même une mouvance politique qui existe derrière cette fête-là, puis c'est normal que ce soit comme ça aussi.
Ben oui, puis moi, je l'enlève pas du tout ni de ma tête ni de mon cœur, cette mouvance politique-là. L'histoire du Québec, pour moi, c'est glorieux et triste. Et j'ai encore plein de combats que j'aimerais mener pour nous. Puis le « nous », par contre, le « nous », les Québécois, je pense que ce « nous-là », il bouge. Puis ce « nous-là », il est changeant, puis il est en mouvance. Puis je pense que c'est là qu'il faut pas faire l'erreur d'être trop strict par rapport à plein de choses. Puis j'ai un côté super patriotique. J'ai une ferveur. J'ai des idées qui sont très très collées aux valeurs de mes parents et de mes grands-parents des années 70. Je l'ai en moi, ça me porte.
Mais ça veut dire que vous êtes souverainiste.
Je pense que dans l'absolu, ouais. Dans l'absolu, okay. je vois mon pays. Moi, je le vois comme un pays. Puis c'est le Québec, ce pays-là, parce que les gens qui y habitent, puis parce que le territoire qu'on a eu la chance d'être... moi, j'ai eu la chance d'être née avec des arbres qui fleurissaient encore, qui sont pas encore désertiques. Tu sais, je trouve qu'on est comme dans... On est très chanceux d'être ici. On devrait dire merci à tout ce qui est venu avant nous. On devrait dire désolé à tout ce qui va venir après, puis juste se concentrer sur l'avenir puis de faire parfait. Maintenant, comment on fait ensemble, tout le monde, dans ce Québec-là, avec le peuple québécois, comment on fait pour continuer de grandir?
Une belle question. On va parler de la fête un peu. Qu'est-ce que je dois... Ha! Voir absolument quels sont les incontournables. Il y a quoi? Je sais plus combien,
ben,
là, 650 sites.
Oui, 650 sites. Puis c'est échelonné sur deux jours. Hein, c'est le 23 et c'est le 24. Vous pouvez passer là, un bon 48 heures là, de fête. Il y a énormément d'activités qui sont autant... Oui, on s'entend, les spectacles de musique, les feux d'artifice, ce qu'on s'imagine de c'est quoi la fête nationale, qui sont des activités souvent de soir. Mais il y a plein d'affaires le jour aussi. Il y a des activités familiales, il y a des activités de maquillage, de bricolage. Il y a des fêtes de ruelles partout à Montréal. Il y a un site qui s'appelle fêtenationale.québec. Vous allez voir toute la programmation là-dessus. Autant les grandes tablées, autant les choses qui sont particulières justement à certains quartiers que des fêtes régionales. Donc le 23 ou le 24, chaque région a aussi des sites dans lesquels ils offrent des spectacles musicaux. Vous allez voir quel groupe, quel artiste joue où. C'est énormément d'activités. Je peux pas toutes les nommer, mais évidemment, il y a le grand retour du défilé à Montréal qu'il faut souligner. La fête qui se retrouve pour cette année-ci au Parc Maisonneuve.
Ça, c'est parfait, ça.
Comme dans le temps, Paul! Et évidemment, le 23 sur les plaines avec des artistes musicaux, puis j'imagine une foule immense.
Je veux profiter de votre présence pour parler du film d'Annick Jean qui va sortir dans les prochaines semaines. Là. Premier rôle, Les hommes de ma mère. Parlez-moi-en un peu.
C'est une histoire très très touchante, sensible, humaine d'une jeune fille que j'interprète qui s'appelle Elsie, qui perd sa mère. Donc au début du film, là, je suis pas en train de divulgâcher quoi que ce soit, et qui doit qui reçoit le testament de sa mère. Elle lui demande de séparer en fait ses cendres en 5 portions et d'aller les mener à chacun des hommes qu'elle a mariés dans sa vie. Donc, on comprend que c'est une femme qui avait beaucoup de ça dit que c'était une actrice. Donc, c'était une femme spéciale, une actrice qui avait eu beaucoup de maris puis qui avait des dernières volontés assez spéciales. Puis ça va confronter cette jeune femme-là
Elle va en apprendre sur sa mère,
elle va en apprendre sur les hommes, puis elle va aussi revisiter les relations avec lesquelles elle n'était pas nécessairement à l'aise jeune. Il y a eu des grandes chicanes, des trucs. Finalement, c'est un pèlerinage qu'elle va faire, elle, dans son passé, puis au final, en faisant un peu le mieux qu'elle peut, ben le mieux possible pour respecter les dernières volontés de sa mère, elle va se rendre compte que c'était peut-être quelque chose qu'elle faisait pour elle aussi, finalement, que sa mère lui léguait.
Ça promet. Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Ben, ça me fait plaisir.
À vous, Léane Labrèche d'Or, qui est la porte-parole nationale et officielle de la Fête nationale du Québec.
Vous voulez plus de balados C23? Rendez-vous dans la section balado du 985FM.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Beaucoup, beaucoup d'auditeurs nous écrivent au sujet de l'Ozempic, des patients qui prennent ce médicament pour perdre du poids, un médicament qui agit comme coupe-faim, mais qui au départ a été conçu comme traitement pour les personnes qui souffrent de diabète de type 2. Et donc, plusieurs assureurs privés, puis là je vais inclure la Régie d'assurance maladie du Québec, ont décidé de ne pas couvrir ce médicament. Dans les faits, ce que ça veut dire, c'est que les gens qui vont vouloir continuer à prendre l'Ozempic vont devoir payer 4 000 $ jusqu'à 5 000 $ peut-être par année pour de leur poche pour obtenir le médicament. Les gens comprennent pas trop pourquoi les compagnies d'assurance prennent cette décision. Je vais en parler avec deux médecins ce matin pour bien comprendre les enjeux de tout ce qui se passe. Docteur Marie-Philippe Morin est avec nous. Elle est spécialiste en médecine interne générale et elle est à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Docteur Morin, bonjour.
Bonjour.
Et Dr Stéphane Ahern, qui est médecin spécialisé aussi en médecine interne générale, mais il est avec nous ce matin, entre autres, parce qu'il a été président du comité d'évaluation des médicaments pour fin d'inscription à l'INES, là, qui est l'Institut d'excellence. Il a été là jusqu'en 2019. Dr Ahern, bonjour.
Bon matin.
Bon, je vais commencer avec vous, Dr Ahern. Pourquoi un médicament est couvert pour le traitement pour le diabète et pas couvert pour quelqu'un qui se fait prescrire pour perdre du poids?
C'est un artefact de la création de notre régime public. Et il faut se rappeler que quand le régime, là, donc la RAMQ, le remboursement des médicaments, a été créé, les médicaments pour l'obésité n'avaient pas bonne presse. C'est-à-dire que les médicaments avaient peu d'effets, donc peu de perte de poids, puis il y avait des effets toxiques à l'époque. Donc, le législateur, à ce moment-là, a exclu les médicaments pour l'obésité. Et là, depuis ce temps-là, bien, il y a des nouveaux médicaments, il y a des nouvelles données, puis on a des médicaments maintenant qui agissent sur l'obésité, sur la perte de poids, mais qui agissent aussi sur les facteurs de risque, donc l'hypertension, le diabète et toutes ces pathologies-là qui sont maintenant associées. Fait que c'est pour ça que le ministère de la Santé et des Services sociaux a demandé à l'INES, à l'automne dernier, de revoir cette classe de médicaments-là et de dire, est-ce qu'on devrait revoir le règlement qui exclut les médicaments pour l'obésité?
Est-ce que ça veut dire qu'on reporte dans le temps la décision? Autrement dit, avec votre expérience, est-ce que vous croyez qu'un jour, on va finir par l'inscrire comme traitement remboursable pour l'obésité?
Ben, je pense que de plus en plus de données qui nous prouvent que ce médicament-là permet de réduire les complications cardiovasculaires, donc le cœur puis les vaisseaux, qui permet de perdre du poids, mais qui permet aussi d'agir sur le diabète et d'agir de façon sur la progression du diabète. Ma collègue va être meilleure que moi pour répondre à ça. Mais je pense que nous allons voir un changement au niveau du règlement. Après ça, il va rester la question, est-ce que le prix qu'on demande pour ce médicament-là est acceptable selon les critères de l'INAES? Puis vous rappelez, le critère pharmaco-économique, le critère de l'impact budgétaire doit être pris en compte. Donc, faut faire attention. L'INAES a dit, il y a des données probantes qui appuient que ce médicament-là a des effets sur des problèmes de santé importants, notamment l'obésité et ses complications. Mais après ça, il faut se poser la question, est-ce qu'au prix qu'il est demandé, il pourra être remboursé dans un régime public? Mais c'est deux questions en deux temps.
OK. Docteur Morin, je veux vous entendre parce que beaucoup de gens disent pourquoi ne pas aider quelqu'un à perdre du poids plutôt que d'attendre que cette personne-là développe des problèmes dans le futur, que ce soit de hypertension, problèmes de diabète, puis là, recevoir des médicaments qui vont être remboursés?
Ben, effectivement, c'est une très bonne question. Je crois que ces médicaments-là, l'obésité doit être prise en charge. On sait que maintenant que l'obésité, c'est une maladie chronique, donc on sait que le poids veut toujours remonter au poids le plus élevé où on a été dans notre vie. Donc, on sait que le corps va tout faire pour qu'on puisse regagner du poids au long cours. Donc, éventuellement, il y a de fortes chances qu'on développe des complications cardiovasculaires, diabète, hypertension. Donc, il faut prendre en charge le traitement de l'obésité. La pharmacothérapie, c'est une des réponses à la prise en charge. On sait qu'il y a aussi la modification des habitudes de vie qui demeure la base, même si on ajoute de la pharmacothérapie. Il faut absolument que on puisse avoir de la modification des habitudes de vie sous-jacentes. La chirurgie bariatrique est aussi un autre outil qu'on a, mais effectivement, je crois qu'il y a une place pour la pharmacothérapie pour éviter le développement de telles complications. Donc, il faut prendre nos patients en amont pour éviter le développement des complications futures.
Vous travaillez avec des patients là, qui souffrent d'obésité, de diabète. Est-ce que vous avez une expérience avec l'Ozempic? Est-ce que, d'après ce que vous voyez, ça donne des résultats?
Bien, en fait, on sait que l'Ozempic, à dose de 2,4 mg, donne des pertes de poids moyennes autour de 15 %. Il y a à peu près un tiers des patients qui vont être plus que 15 %, donc de 20 % et plus. Donc, on a une catégorie de patients qui sont des hyper-répondeurs, qui peuvent perdre 50, 60, 100 livres. Mais la moyenne, c'est autour de 15 %. Donc oui, ça fonctionne, mais je pense qu'il faut le donner aux bons patients pour la bonne indication avec une équipe multidisciplinaire, parce que si on prescrit ça sans modification des habitudes de vie, ben effectivement, c'est un coup d'épée dans l'eau.
Je vous pose une question des auditeurs. Est-ce que c'est le genre de médicament qu'on prend à vie? C'est-à-dire qu'on commence ça, puis quand on veut garder fait que la perte de poids demeure, il faut continuer à le prendre?
Bien, comme j'ai mentionné tantôt, on sait avec les évidences scientifiques que l'obésité, c'est une maladie chronique. Le corps veut toujours remonter au poids le plus élevé qu'on a été. Donc, si on prend cette base-là, peu importe l'outil qu'on prend pour perdre le poids, les habitudes de vie, la pharmacothérapie, la journée qu'on arrête ce qu'on a fait pour perdre le poids, on va regagner. Donc, si on arrête la pharmacothérapie, oui, il y a un risque de regain de poids. Les études le démontrent très bien. Donc, c'est un médicament qu'on doit prendre à long terme pour la gestion chronique du poids à long terme. Donc, ça, c'est important que les gens comprennent ça. Je fais toujours le parallèle avec le diabète de type 2 ou l'hypertension. On pose jamais la question, est-ce que je vais arrêter mon insuline ou mes antihypertenseurs? Parce que c'est évident que la glycémie ou la tension va remonter. Donc, c'est exactement le même principe pour le poids.
OK. Dr. Ahern, je veux vous entendre parce que vous avez soulevé la question importante, là. Le coût et le rapport de l'efficacité quand on vient à évaluer comme ça un médicament. Est-ce qu'on tient compte, si on introduit ce médicament et que le régime public, par exemple, paye la facture, est-ce qu'on projette dans le temps en disant ça va nous permettre d'éviter tant de cas d'obésité, donc tant de cas de gens qui vont développer une série de problèmes et pour qui on va avoir des médicaments à payer?
Absolument. Donc, l'INAES crée ou utilise des modèles, ce qu'on appelle pharmaco-économiques. Là. Fait que ce qu'on va faire, c'est prédire l'impact de la maladie, puis on va venir voir avec le médicament si on est capable de changer la trajectoire, donc l'effet de la maladie. Puis si on est capable de démontrer que ça va être coefficace sur tous les problèmes qui vont être développés. Donc, la question qui existe aujourd'hui, c'est quand on regarde les études pharmaco-économiques au prix que le médicament est vendu sur le marché, il y a des questions à savoir s'il est coût-efficace. Mais c'est pas le seul médicament qui est inscrit aux listes, qui fait l'objet d'une négociation par la suite de la part du gouvernement pour que le prix soit réduit. Fait qu'il faut vraiment voir la question, un, du règlement. Est-ce que le ministre souhaite ou non modifier le règlement avec les nouvelles données, avec ce que Dr Morin dit, c'est-à-dire que l'obésité est maintenant considérée comme une maladie chronique, qu'on a maintenant des médicaments qui démontrent des effets. Deux, après ça, il faut que l'INAES procède à son évaluation. Puis après ça, le ministre doit réfléchir à l'impact budgétaire de ce remboursement-là. Puis je vous rappelle, on n'est pas les seuls. Le Royaume-Uni a commencé à le rembourser, l'Australie a commencé à le rembourser, les États-Unis réfléchissent pour les programmes publics, mais avec des impacts là, qui sont extrêmement importants en termes budgétaires. Donc, il faut le réfléchir de façon intelligente. Puis vous avez, si vous regardez le rapport de l'INAES, là, on essaie de voir est-ce que certains patients qui en bénéficieraient plus que d'autres, un peu ce que Dr Morin a souligné tantôt, est-ce qu'il y a des clientèles, est-ce qu'il y a des types de patients qui seraient des meilleurs répondeurs? Il va falloir réfléchir à ça si on veut rembourser ce médicament-là de façon équitable et raisonnable au sens de la loi.
Et ce processus peut prendre combien de temps, selon vous, avant d'arriver à une décision finale?
Ça, c'est une bonne question. Il y a la question de changer le règlement. Ça, il va falloir poser la question à M. Dubé. Malheureusement, c'est une décision politique, là. Puis il y a des particularités sur ce changement réglementaire-là. Donc, je peux pas vous dire, là, mais c'est une décision ministérielle. Donc, ça, c'est la première partie. Après ça, ben c'est la démarche de l'INAES. Et vous savez, là, la démarche de l'INAES, normalement, prend de 6 à 12 mois. Puis après ça, il y a la démarche d'évaluation, de négociation des prix. Donc, ça peut quand même être relativement, entre guillemets, long. Mais vous comprenez que c'est un processus qui est rigoureux. La démarche de l'INAES est toujours rigoureuse. Donc, il faut suivre ces étapes-là pour s'assurer que notre régime public survivre, surtout quand on évalue des médicaments qui ont un gros impact en termes monétaires.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été là ce matin. Très apprécié. Bonne journée.
Merci.
Bonne journée.
Au revoir. Docteur Stéphane Ahern, qui est médecin spécialisé en médecine interne. Il a été président du comité d'évaluation des médicaments pour fin d'inscription. C'est à l'INAES, qui est l'Institut d'excellence. Il a été là jusqu'en 2019. Et docteur Marie-Philippe Morin est à l'Institut de cardiologie de Québec. Elle est spécialiste en médecine interne générale. Donc, à retenir, et votre compagnie d'assurance a dû vous avertir, donc les gens qui actuellement ne sont pas diabétiques de type 2 et qui prennent de l'Ozempic pour la majorité de ces patients, donc qui prennent ce médicament pour une perte de poids, ça ne sera plus remboursé quelque part au mois de juillet. Là, ça dépend des compagnies, ça dépend des contrats que vous avez. Et c'est un traitement qui, si vous décidez de le poursuivre, peut vous coûter jusqu'à 4 000, 5 000 par année facilement. Là, maintenant, est-ce que le ministre va demander de revoir cette catégorie de médicaments qui sont prescrits, qu'on ne peut même pas mettre sur la liste, en disant, cette fois-ci, il y a des molécules qui semblent donner des résultats. Comment on va l'évaluer? Ça va coûter combien? Est-ce qu'on va rembourser le médicament? Et on le voit, là, le débat est important. Et je le sais, à chaque fois que je parle de ça, je reçois une tonne de courriels de gens qui me disent « J'ai perdu 25 livres, j'ai perdu 35 livres, j'ai stabilisé un paquet d'indicateurs concernant ma santé. Bref, je vais mieux, mais j'ai pas l'argent pour le payer. » Si vous avez le diabète de type 2, ça va être remboursé. Mais si c'est pour la perte de poids, pour l'instant, ben vous allez prendre ça dans vos poches.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Nos deux invités ce matin nous préparent à un été assez intéressant avec une pièce qui est revisitée. Ça s'appelle Visite libre d'ailleurs 2.0. Michel Charette et François Chénier sont avec nous. Bonjour à tous les
salut
deux.
Paul,
bonjour.
Salut.
C'est vrai, là, c'est une pièce que vous avez déjà présentée, vous l'avez retravaillée, vous dites ça marche pas, on l'enlève, on rajoute. Mm-hmm. Pourquoi vous avez décidé de revenir avec celle-là là, qui se passe dans le domaine de l'immobilier?
De un, par manque de temps d'écrire une nouvelle pièce.
Ça, c'est franc, puis on arrive parfait.
On va être transparent, on se fera pas de cachette. Oui. Parce que c'est la première pièce qu'on a écrit ensemble, François et moi, et on se disait, en tout cas, moi, je me disais, j'ai pas été au bout de l'exercice de cette pièce-là. Je sais qu'on peut travailler puis aller plus loin avec ça. On l'a relu, on trouvait que c'est encore d'actualité. Évidemment, il y a des choses qu'on disait en 2007 qu'on peut plus dire aujourd'hui, là. Tu sais, faut aller de son temps. Donc, on a retravaillé ça, et il y a des scènes qui ont sauté, des personnages qui ont sauté, on a remanié les affaires, on a actualiser le texte pour que ça soit plus accessible. Et évidemment, là, à un moment donné, dans l'air du temps, en plus, c'est arrivé avec tout ce qui est arrivé avec les agents d'immeubles. Mm-hmm. Tout le monde voulait être agent d'immeuble pendant la pandémie. Il y a eu un gros boom de tout ça. Là, de plus en plus de gens quittent la profession. Il y a eu la fille qui a fait de la fraude, la surenchère, puis tout ça. Donc, c'est encore un sujet d'actualité. Mais faut pas oublier, nous autres, que c'est une comédie. Là, on n'est pas là-dedans, puis tout. C'est vraiment... comme on le dit souvent dans l'entrevue, on fait pas avancer la science avec cette pièce-là. Là. C'est pas ça le but. Là. Le but, c'est un divertissement que les gens aient du fun puis qu'ils s'amusent. Là.
Mais êtes-vous parti de vos expériences dans le domaine immobilier pour concevoir la pièce, puis j'allais dire les personnages?
Ben pas nécessairement. Michel, comment on travaille, on est très complémentaires, Michel et moi. Michel, il cherche toujours une situation qui va donner lieu à une galerie de personnages. Donc il a trouvé cette idée-là. C'est pas des expériences vécues nécessairement, on les a vécues par la suite parce qu'on a écrit ça quand même il y a 15 ans.
Ouais.
Mais c'est ça. Non, c'est pas je pense que c'est un sujet qui prête à la comédie, c'est juste pour ça là, c'était vraiment.
Moi je me promenais dans mon quartier puis je voyais ça souvent, visite libre de 14 à 16 heures. Je fais, mon Dieu, mais c'est une mine d'or pour une panoplie de personnages. Donc, j'ai commencé à écrire des scènes. Puis là, j'étais bloqué. Puis là, j'ai appelé François à l'époque. J'ai fait, écoute, je suis en train d'écrire de quoi, mais je suis bloqué. Je sais pas comment commencer. Je sais pas comment finir. Ça te tente-tu de m'aider? Il a dit oui. Il est embarqué là-dedans. Il a commencé. Il dit, écoute, je pense qu'on pourrait commencer là, s'en aller là, aller vers ça, finir avec ça. J'ai dit, go, on a la structure. Là, on a commencé à écrire la pièce. Ben, écoute, depuis ce temps-là, on a écrit 5 ensemble. Mmh. On a un paquet de projets, puis ça va super bien.
Mais ça veut dire que, si je résume un peu l'histoire, c'est un agent d'immeuble qui est dans le milieu depuis des années, il travaille fort, puis tout ça. Puis là, c'est quoi? C'est comme une espèce, il atteint un plafond, puis il essaie de se,
ben,
de se relancer. Il y a un enjeu.
Ah, il y a un enjeu. Dans la pièce, lui, il veut devenir numéro un, ça arrive sud, dans le 4-5-0.
J'ai vu le nom du personnage.
Ouais.
C'est une coïncidence?
Zambito?
Écoute, il s'appelait même à l'époque. On l'a pas changé de nom.
C'est une prémonition.
Mais ça, c'est son concurrent, Zambito, parce que notre personnage principal s'appelle Robert Bellil.
C'est ça.
Donc, c'est ça. Fait que l'histoire... Vas-y, excuse-moi, Frank, tu t'entends.
Ben, Zambito, c'est l'antagoniste. En fait, il faut qu'il le batte. Il faut qu'il devienne numéro un dans le 4-5-0. Et il y a un enjeu amoureux là-dedans, parce que notre Robert, notre personnage principal, il se donne beaucoup dans son travail. Est-ce qu'il se donne autant dans sa relation amoureuse? C'est peut-être là que... C'est cet aspect-là que j'ai amené au départ dans l'écriture pour qu'on suive une histoire. T'sais. Fait que les gens suivent, puis les gens rient.
Quand il y a des séries sur la police, les policiers réagissent. Sur la santé dans les hôpitaux, est-ce que les agents immobiliers ont réagi à votre pièce?
Ben, à l'époque, il y avait beaucoup moins de réseaux sociaux, on s'entend, là, quand on l'a créé en 2009. Donc, on avait moins de commentaires. C'est sûr qu'il y a des gens qui en ont parlé. Mais évidemment, nous autres, on extrapole, on grossit les choses.
Ah oui, c'est un prétexte.
Les personnages, tu sais, comme dans Le Bonheur, mon personnage, c'est un prétexte dont péter des coches, puis tout ça. Ça se passait dans une école. Nous autres, le prétexte, c'est d'amener une galerie de personnages. Quand les gens viennent voir du Charette Chénier, ils savent qu'il y a peu d'acteurs, mais beaucoup de personnages. Évidemment, les personnages qui se promènent dans l'univers de Robert Bellil, c'est tout défoqué, plus les uns plus que les autres. Il n'y a aucun personnage qui est susceptible d'acheter la maison. C'est juste que lui, dans la situation auquel il est mis, il est tout le temps le gun sur la tempe. S'il y a de la broue dans le toupette, là, il fait, c'est pas vrai que c'est pas eux autres qui vont acheter. Là, il y en a un qui dit, écoute, ma femme veut acheter, mais moi, je veux pas acheter ici. Je veux pas te dire pourquoi, tu vas comprendre pourquoi. Fait que là, il donne de l'argent. Fait qu'il essaie de trouver le plus de défauts possible à la maison pour pas qu'il achète, justement. Mais en même temps, il se dit, oui, mais je veux acheter, mais en même temps, j'ai moyen de faire 1000$ cash. Fait que, tu sais, il y a toutes sortes de situations à bracadabrande qui se passent dans cette pièce-là. Évidemment, c'est du théâtre d'été. C'est une belle histoire. Ça finit bien. On se casse pas la tête. Ça s'amuse, les gens rient. Et nous autres, ce qu'on aime, François et moi, c'est d'intégrer un paquet d'affaires là-dedans. Il y a de la danse, il y a du burlesque, il y a du drame, il y a du du senti. Il y a des folies, il y a de la musique, il y a de l'éclair. Tu sais, on veut que le client en ait pour son argent. Là.
Symphorie, la dernière fois, on s'était parlé de ça. Là, ça continue au mois d'août, tu me disais, là,
oui,
la tournée.
Tout l'automne en tournée, oui.
Comment ça a été reçu? C'est une marque quand même solide, le Symphorien.
Absolument, absolument. Ça a été vraiment très bien reçu. On sait que la nostalgie opère très bien en ce moment au Super. Niveau des spectacles, autant en chanson que... Mais cette idée-là, Martin Leclerc l'avait eu, le producteur l'avait eu vraiment. Il m'a parlé de ça il y a quasiment 10 ans. Donc, cette idée-là germait dans sa tête depuis longtemps. Puis le producteur a tenu parole, il m'a rappelé, ce qui est assez rare dans notre métier. non, mais c'est vrai, faut le dire. Martin Leclerc m'a parlé de ça il y a plusieurs années, il m'a rappelé, j'ai fait Symphorien. Et puis c'est à ce jour, probablement ma plus belle expérience théâtrale, à part celle que j'ai vécue avec mon ami Michel quand on a fait la tournée du vrai monde récemment. Ça a été... D'ailleurs, j'en profite pour remercier Michel publiquement. T'sais, les gens savent beaucoup que Michel et moi, on travaille ensemble, t'sais, mais ça, je le dois vraiment à Michel, des beaux projets comme ceux-là. Là. Symphorien, je me le dois à moi-même. Ceci dit, je me le donne. et c'est vraiment un plaisir de jouer. Le rideau ouvre, les gens applaudissent le décor.
Ils sont déjà installés. C'est-à-dire que c'est pas... On découvre pas au fur et à mesure. On sait ce que c'est.
Ils sont déjà installés. Puis il était pas question non plus de replonger l'action aujourd'hui. T'sais. On reprend l'action. On est à la fin des années 70. Comme si c'était un nouvel épisode de Symphorien. C'est beaucoup plus intéressant comme ça. Là. C'est, ouais. Surtout ce style de comédie-là. Là.
On parlait pendant la pause d'une caractéristique du théâtre d'été en général. C'est-à-dire que le public qui va là, c'est pour se détendre, c'est pour rire. Et ils commentent beaucoup. J'ai parlé à bien de vos camarades qui ont tous des anecdotes sur des gens qui commentent à haute voix, qui réagissent, qui, même dans certains cas, interviennent dans la pièce.
Absolument.
Hein? Mais parlez-moi de ça un peu.
Ben, ce qui est le fun là-dedans, c'est que les gens, ils se mettent pas de limite. T'sais, ils ont l'impression qu'ils sont dans la salle, mais qui pensent qu'on les entend pas, et c'est ça la beauté de la chose aussi. Puis des fois c'est des commentaires drôles, des fois c'est il y a pas de filtre, des fois ils ont pas de filtre. Alors c'est ça qui est formidable, mais c'est jamais dérangeant, il y a toujours des gens qui sont là pour les ramener à l'ordre un peu. Mais ce qui est drôle aussi, c'est des fois le cellulaire sonne, ils répondent. Puis il y a une conversation qui s'engage. Oui, ben écoute, je peux pas te rappeler Robert, je suis au théâtre. Oui, attends une minute. Moi hein, sois pas long. Attends une minute. OK, je te rappelle. Ils raccrochent. Pour eux autres, il y a pas de décorum ou quoi que ce soit, mais des fois il y a des répliques un peu plus weird, des fois.
Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit une pièce où un des personnages était caché, puis quelqu'un de la salle disait, il est là.
Oui, absolument. Oui, il commente des affaires. Ah! Mettons, il y a un personnage qui arrive, puis il est pas gentil, puis t'entends dans ça. Oh, l'animal. Oh, l'enfant de chienne. Lui, là. Mais c'est drôle, puis ça se parle entre eux autres, des fois, ou quand un acteur ou une actrice arrive sur scène. Ah oh, oui, oui, on l'a vu dans quoi, dans lui? Ah oh, oui, dans Unité 31. Non, District 31. Ah oh, oui, c'est formidable de voir ça.
Monsieur Charrette, avez-vous vu comme il a perdu du poids? Ouais, ça y fait bien. On attend ça clairement.
C'est franchement, vraiment, c'est drôle en même temps. T'sais, nous autres, on est capable de faire abstraction de ça. C'est juste des fois, c'est dérangeant pour les spectateurs alentours, mais bon, on vit avec. Là.
C'est incroyable. En tout cas, c'est présenté au Théâtre de l'Hirondelle.
Oui, des Hirondelles.
Ça commence le 16.
Oui, vendredi, c'est notre premier vendredi.
Oui.
Bravo.
Merci.
Puis on vous réinvite l'été prochain, au mois de mai à peu près, pour parler d'une autre pièce. On va en avoir une autre, c'est sûr.
Il y a 3-4 affaires en chantier en ce moment avec François.
On est là-dessus. Ben, t'as ton spectacle.
Ouais, mon one-man show. On est en train de développer une série aussi pour un réseau de télévision. One-man show. Puis on a 3 projets de pièces qui nous sont commandées, qu'on est en train de travailler.
Et de la télé, puis de la radio.
Ben oui, ça va. Ben, on peut pas se plaindre.
Écoute. On se plaint pas.
Parfait.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
On va parler du Saguenay parce qu'il y a l'annonce d'un commerce pour favoriser la bienveillance qui fait jaser.
Je tiens à le dire, j'ai un respect sans borne pour ceux et celles qui travaillent dans le service à la clientèle. C'est pas nécessairement évident ces temps-ci. Les gens sont à cran avec le manque de main-d'œuvre. Ça doit parfois être difficile. Ça peut être plus long aussi dans le service et les gens passent des commentaires très désagréables. C'est souvent pas, évidemment, la faute de la pauvre fille en arrière du comptoir qui est tout seule à attendre du renfort. Et il y a une image qui circule sur les réseaux sociaux. C'est une affiche du Dépanneur Plus de La Terrière au Saguenay où c'est écrit « Nous travaillons présentement présentement avec un personnel réduit ou en formation. Merci de votre patience. Si jamais vous manquez de patience, n'hésitez pas à déposer votre candidature pour les postes disponibles. Donc, c'est leur façon qu'ils ont trouvé. C'est très bien. Et ça a été salué sur les réseaux sociaux. Et j'ai appelé le dépanneur là, pour authentifier l'affiche. Ce qu'ils me disaient, c'est qu'ils ont mis ça dans la section cantine parce qu'ils ont de la difficulté à recruter du personnel là, dans la section restauration. Mais je trouvais que c'est un bon clin d'œil avec un ton ironique comme j'aime, qui nous fait réfléchir quand même.
Merci.
Vous écoutez Balado du dimanche, une présentation de C23. Vous voulez plus de balado? Abonnez-vous à l'Essentiel de Paul Arcan sur Apple Balado, Spotify ou Google. Un nouvel épisode tous les jours en semaine vers midi. Après la pause, ça tient la route avec Benoît Charrette.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.